Un pain grillé et nappé d'une belle sauce vert rouge, ça sent la France.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Ah oui, braisez-moi. Braisez-moi, je vous en supplie, braisez-moi.
Laurent Mariotte.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Hein. Un peu de douceur, tiens, dans un monde de brutes. Voilà le programme jusqu'à 12h30. Nous allons faire le tour du monde des gâteaux et nous avons plein d'astuces pour pâtisser à la maison. Mes bons vivants sont là, avec son air de dandy parisien et son enthousiasme communicatif. Il cultive l'art de la critique comme un art martial. C'est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Un sport de combat, c'est exactement ça.
Hein, c'est ça, on prend la force de l'adversaire pour la retourner. Entre une balade à la rencontre de nos artisans et un débat autour des labels avec nos agriculteurs, il vient partager le goût de la France à cette table, c'est Philippe Toinard. Bonjour Philippe.
Bonjour Laurent, bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Heureux de vous retrouver, on vous lit dans l'excellent magazine, l'excellente revue 180 degrés qu'on retrouve dans les librairies. Et pour finir ce tour de table en beauté, Alain Ducasse, oui, le vrai, vient partager le plat du jour avec nous, un plat inscrit au panthéon de notre patrimoine culinaire. De quel plat s'agit-il? Eh bien, soyez là, vous aurez la réponse dans un instant. Ce sera un peu avant midi au studio Coluche. Oh ben on ne change pas nos habitudes, hein. En voiture, à la maison, posez-vous la question. Quel est votre goût de la semaine? Tiens, Philippe Toinard, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu à cette table.
Eh ben, on va aller du côté de Sainte-Savine. Alors, c'est à ne pas confondre avec Sainte-Soline, dont on parle beaucoup en ce moment pour les bassines. Sainte-Savine, c'est une ville qui est collée à Troyes, c'est dans l'Aube donc. Et on va aller rencontrer un couple qui s'appelle Claire Hugo. Alors, Claire était avant sa reconversion, figurez-vous, tailleuse de pierre en restauration de monuments historiques. Depuis, elle est devenue cuisinière. Et Hugo, lui, il a été formé en partie à la boulangerie chez Roland Feuillas à Cucugnan. C'est dans l'Aude avec un D, alors que là, on est dans l'Aube avec un B.
Les maîtres de Montmoulin.
Ouais, c'est une boulangerie-restaurant, ou un boulangerie, ou un restaurant-boulangerie, comme vous voulez. Le matin, on pousse la porte pour acheter du pain, des viennoiseries qui sont réalisées avec des farines bio locales de chez les Cutéreux, c'est le nom du meunier, c'est le nom des farines. C'est au levain naturel. Et à partir de midi et jusqu'au soir, ils transforment le lieu, les pains s'enlèvent, on enlève les viennoiseries, on enlève les flancs, et ça se transforme en restaurant. Et c'est Claire qui s'y colle cette fois-ci. Les entrées, c'est autour de 13 euros. Moi, j'avais un bœuf en tartare avec du levain, des cèpes et du chiseau. En plat, un pigeonneau sur coffre avec un jus réduit et une betterave en purée. Oh là. Et en dessert, pour 12 euros, un crémeux au chocolat, tuile de sésame et crème glacée de sésame. Donc, c'est une boulangerie le matin. Et ensuite, c'est un restaurant.
Redites le nom.
Claire et Hugo à Sainte-Savine.
Eh ben voilà, il a bu vos paroles, Emmanuel Rubin. Votre goût de la semaine, camarade?
Un centre-olof.
Pardon?
Un centre-olof.
Qu'est-ce que c'est?
Écoutez, 30 ans de carrière, je n'avais jamais dégusté. Je me suis retrouvé à Saint-Tropez hors saison. C'est très joli quand ce petit village se démaquille. Avec le seul hôtel-restaurant qui finalement reste ouvert toute l'année. C'est la fameuse Hôtel de la Ponche. Et là, ils ont vraiment poussé à bout et au bout l'idée du poisson locavore, puisqu'ils ont deux pêcheurs attitrés qui, tous les jours, partent en mer pêcher des poissons. Et là, ils ont remonté un centre-olof qui est un vrai poisson de Méditerranée. Je l'ai donc dégusté. La chair est très proche dans sa texture, dans sa densité du saumon. Le goût est beaucoup plus délicat, beaucoup plus méditerranéen, accompagné d'une simple sauce vierge. C'est un vrai poisson. Et justement, là, on est dans une espèce d'économie de la mer très intelligente, parce qu'ils pêchent, ils prennent et ils servent. Ils ne vont pas aller pêcher le thon pour le thon ou le bar pour le bar. Non, non, non. Il y a du centre-olof et c'est un centre-olof qu'on dégustera.
C'est un poisson gras alors?
Plutôt gras, oui.
Ah,
plutôt
ouais.
Gras.
Ah, bah, le centre-olof, j'aime bien, on apprend des choses à cette table. Mon goût de la semaine, eh bien, il est terre et les mers. Figurez-vous que je suis allé déjeuner chez notre camarade Olivier Pouls et qui m'a fait des vols au vent aux escargots de Bourgogne avec des calamars. Fallait oser ce mariage. Hein.
Ah, mais depuis qu'il a dégusté de la langue de bœuf,
il est bon, les langues de bœuf. C'est vrai, il a dégusté pour la première fois de la langue de bœuf avec Josène Balasco à cette table. Vol au vent crémé avec du calamar, du champignon et puis un petit peu de vin jaune. C'était un délice. Il faut oser en cuisine, en fait. N'ayons pas peur d'oser. Eh bien, osons aller au marché.
Ouais.
Oui, c'est bien. C'était très bien. Maximilien Carlier, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, s'est rendu dans le Vieux-Lille, place du concert, pour être précis. Et il vous a demandé de quoi se composait votre panier cette semaine. Et c'est vrai qu'on est encore entre deux saisons. Hein. L'été est encore un peu présent sur les étals et l'automne débarque.
J'ai des poivrons, des courgettes et des pommes de terre.
Et qu'est-ce que vous comptez préparer?
Sûrement ratatouille.
Bah vous savez, en ce moment, les gens sont perturbés avec les températures anormalement élevées pendant la saison. Nous, on devrait vendre de l'endive, on devrait vendre tout ce qui est pot-au-feu, tout ce qui est la famille des courges, c'est-à-dire potimarron, butternut. Mais en ce moment, les gens nous demandent encore des tomates. Ils nous demandent... Hier, on m'a refusé du melon.
Et avec les endives,
J'ai 1,2 kg, ça va aller.
Qu'est-ce que vous donneriez comme recette à vos clients là, en deux saisons?
En ce moment, fondu de poireaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le chou, chou rouge avec de la boscope, des lardons, salade d'endives, des épinards avec un peu de crème fraîche. Enfin, il y a plein de choses en ce moment.
L'objectif, c'est de faire une soupe de butternut. Un peu de crème fraîche et de la graine de cumin et le tour est joué. Ma grand-mère, elle adore cette recette. Donc, c'est que je ne suis pas à côté de la plaque et que ça fonctionne plutôt bien.
Et comment que ça fonctionne plutôt bien? Mais c'est vrai qu'on l'entend, hein, le climat et la table sont intimement liés. Bon, ça y est, les températures redeviennent normales. Là, on est dans de la fraîcheur quand même, on va le voir ce week-end.
On espère.
Mais y a des produits comme la mâche, par exemple, qui ont poussé trop rapidement et qu'on n'arrive pas à vendre parce qu'ils ne sont pas consommables. Il y a des vrais soucis.
Hein. Mais il y a plein de produits. En fait, on se demande si on ne va pas passer directement de l'été à l'hiver, parce qu'on est déjà début novembre. Ouais. Mais on a l'impression que les produits d'automne sont là, sans être là. Et alors, est-ce qu'ils ont du goût? Pas tous, a priori. L'été, les produits d'été sont encore là et ils ont encore un peu de goût.
On les champignons sont là. Hein.
Alors, les champignons sont là. Bah oui, c'est une magnifique
saison. Les
trompettes
de la mort, il y en a.
Il n'y en a jamais eu autant.
Les cèpes, il y en a partout. Des girolles. Voilà, si vous avez de la chance, allez aux champignons ce week-end, Emmanuel.
J'y avais pas pensé, mais c'est vrai, on est en train de sauter une saison. Parce que là, on parle beaucoup du climat, des températures, mais les saisons, elles sont marquées. Donc, on va passer directement de l'été à l'hiver et l'automne. Hormis les champignons, sera fait la malle.
Et avec la chaleur, on voit presque des arbres qui pourraient se remettre à bourgeonner. Hein.
Mais alors, ça bourgeonne. En fait, le principe, c'est que normalement, la sève des arbres, à cette saison, redescend. Et l'arbre se met en mode hiver. Et en fait, là, la sève n'est pas descendue, ce qui fait que le bourgeon se dit, tiens, il fait doux, et donc ça ressort. J'ai même moi des framboises dans mon jardin. On est début novembre et j'ai encore des framboises.
Alors ça, c'est les remontantes aussi.
Oui, novembre.
D'habitude, c'est fin août, septembre. Les remontantes, là, on est novembre.
Elles s'arrêtent plus tôt.
Un tout petit peu acide, mais elles sont encore mangeables.
Et ben, c'est incroyable. Voilà, le réchauffement climatique s'invite à table. C'est vrai que c'est un vrai sujet de société, ça. On revient dans un instant, les amis. On va mettre de la douceur. Tiens, ce samedi, pour le week-end, c'est parfait. Les gâteaux du monde. 100 recettes pour faire le tour du monde des desserts avec Kathleen Clarity qui nous rejoint dans un instant.
La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Flan, cake, moelleux, ils sont régressifs, conviviaux et à la portée de tous. C'est vrai qu'on peut tous pâtisser à la maison, surtout le week-end. Et vous allez voir, les gâteaux nous donnent aussi le goût du voyage. Et c'est ce que nous allons entendre avec notre invitée, Kathleen Clarity, qui vient de sortir un très beau livre chez Hachette Cuisine. Ça s'appelle Gâteaux du monde. Bonjour Kathleen.
Bonjour Laurent.
How do you do?
I'm fine. And you?
Toujours heureux de vous recevoir à cette table. Vous êtes la chef américaine qui marque la gastronomie française parce que vous nous mettez au diapason de la vraie cuisine américaine en général, parce qu'il y a une vraie cuisine américaine. Hein. Ce n'est pas que les gâteaux d'anniversaire ultra colorés et les burgers.
Mais exactement. Heureusement. Merci de le dire d'ailleurs, parce qu'on ne le dit pas assez.
Alors, vous venez nous voir avec Gâteaux du Monde, 100 recettes pour faire le tour du monde des desserts. C'est aux éditions Hachette Cuisine, je le disais. Très documenté, hein, recettes précises et gourmandes. C'est un gros livre avec près d'une centaine de recettes du monde entier. Comment vous avez choisi?
Ah là, c'était difficile. Il fallait d'abord diviser un peu le monde par continent. Et ensuite, beaucoup, beaucoup de recherches. Certains pays, beaucoup plus difficiles que d'autres. En fait, la France, en l'occurrence. Et fallait réduire. Ce n'était pas évident.
C'est ça, il faut choisir.
Il fallait choisir. Les États-Unis aussi. Hein.
Il y a la Suède, il y a le Moyen-Orient, il y a les kadaïfs du Maroc, le mavla pudding d'Afrique du Sud.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ça tient, le mavla pudding d'Afrique du Sud?
Alors déjà, il y a des résonances un peu hollandais, on l'aurait compris. Hein.
C'est ça. Hein.
C'est toujours une question d'immigration, mais en fait, c'est comme un sticky toffee pudding, en fait. Il y a beaucoup de caramel, c'est très sucré.
Oui, il est très marron, hein, c'est ce que je vois.
Ça se mange à la cuillère, surtout.
On dirait un gâteau qui a été cuit par Claire Dutronc quand elle les oublie au four. Hein, c'est très, très foncé. Hein. C'est vrai. Hein.
Je ne suis pas sûr que la cuillère s'en remette.
Il y a le basboussa d'Égypte. Voilà. Comment vous dites? Babousa.
Basboussa, c'est très bon.
Oui, basboussa, oui. Bar Nainamo du Canada.
Oui.
C'est vrai qu'on parle toujours de la cuisine qui est un marqueur de diversité, mais la pâtisserie aussi permet de faire de belles découvertes dans le monde entier.
Ah ben complètement. On est vraiment sur des gâteaux, j'ai envie de dire. C'est des gâteaux de famille.
Est-ce qu'il y a des parties du monde où il a été plus difficile de trouver des recettes de gâteaux que d'autres?
Oui. Parce qu'en fait, bon, je pense que le gâteau, c'est une tradition absolument partout, mais il n'est pas consommé de la même manière. Et puis, certains pays n'ont vraiment pas accès à beaucoup d'ingrédients. Ça reste quelque chose un peu luxueux. Hein, c'est-à-dire,
c'est
on peut vivre sans manger un gâteau. Donc, c'est un peu la... la petite plus. Donc, dans certains pays en Afrique, par exemple, j'avais un petit peu de mal à trouver les gâteaux comme on les connaît nous. C'est-à-dire un gros gâteau à partager, c'est plutôt des gâteaux individuels. Et ça va être beaucoup de choses, vraiment comme une pâte frite et très sucrée.
Ah bah le sucre, c'est réconfortant, c'est régressif. Il y a les mochi japonais aussi dans votre livre. C'est vrai que le Japon et la pâtisserie, c'est une très grande histoire d'amour aussi, hein, Emmanuel Rubin.
Oui, alors ils ont leur pâtisserie propre, je pense que vous la racontez dans votre ouvrage. En revanche, l'histoire d'amour étonnante, encore une fois, c'est l'histoire d'amour entre les Japonais et les Français.
Oui.
C'est-à-dire que dans les années 80, beaucoup de chefs français et de pâtissiers français deviennent des stars au Japon parce qu'ils installent des boutiques.
Pierre Hermé,
bien sûr, c'est un demi-dieu là-bas.
Hein. Ah bah oui, c'est...
Vous me direz, ils ont une facilité à faire des demi-dieux au Japon, c'est hallucinant.
Mireille Mathieu aussi.
Exactement. Il n'empêche que du coup, nombre de Japonais vont se convertir avec des écoles aussi. Il y a l'école Cordon Bleu, célèbre école Cordon Bleu qui est installée à Kobe. Ils vont se convertir à la pâtisserie française. Ils vont arriver en France parce qu'ils sont intransigeants, les Japonais, quand ils se passionnent pour quelque chose. Ils vont vraiment aller au bout de la cuisine. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un dialogue entre les deux cultures. Nous, on se régale de mochi de plus en plus dans nos grandes villes. Et eux sont en train de devenir des pâtissiers hors pair, toujours très dans le détail. Et il faut du détail, de la précision dans la pâtisserie. Donc c'est vrai qu'ils ont, j'allais dire, des qualités intrinsèques qui font que ce sont de grands pâtissiers. Il y en a pas mal à Paris. Un dernier, il s'appelle Mori Yoshida. Il est installé tout près d'ici, dans le 7e. Il vient de sortir d'ailleurs un livre qui s'appelle Gâteau. Et puis alors l'étonnant, ça vous allez peut-être y répondre, Kathleen, c'est qu'au Japon, la culture du sucre, elle n'est pas très présente. C'est pas un pays qui mange beaucoup de sucre. Alors, il y a une manière de paradoxe à voir les Japonais se tomber en amour pour la pâtisserie française, qui est quand même très sucrée, alors que c'est pas dans leur culture. Et dans le même temps, tous nos néo-pâtissiers aujourd'hui aiment à désucrer leurs desserts. Et du coup, les Japonais, eux, naturellement désucrent et sont aujourd'hui à la pointe de la pâtisserie française.
Et oui, ils sont dans le juste, en fait. Hein.
Ah ouais, complètement, hein, complètement. Je pense que ce qu'ils adorent, ce qu'ils apprécient dans les pâtisseries françaises, c'est tout cet raffinement et cette précision. En fait, effectivement, ils ont, c'est vraiment dans leur culture. Donc, ils vont faire des merveilles avec la pâtisserie.
Et comme ils ont quand même un sens de l'esthétique un peu différent d'une autre, c'est vrai qu'un dessert, pas ces gâteaux de famille, mais le dessert du pâtisserie, le gâteau boutique, ils excellent.
Oui. Ouais.
Est-ce qu'il y a un dessert qui vous a étonné plus que d'autres quand vous avez préparé ce livre? Ce sont des desserts familiaux qu'on peut refaire à la maison, mais malgré tout, est-ce qu'il y a eu une recette qui vous a un petit peu estomaqué?
Alors, très honnêtement, il y avait certains en Asie où c'était un peu difficile pour nous, en fait, parce qu'on pouvait trouver les ingrédients, mais malgré tout, ce n'est pas exactement la même chose. On n'a pas exactement les mêmes moules, on ne va pas cuire exactement de la même façon. Donc, on avait fait plusieurs essais sur un gâteau de lune et à chaque fois, on avait une espèce de sable, le truc qui ne tenait pas du tout. Enfin, c'était assez compliqué pour nous, en fait. Ça m'avait étonné. Alors que ça a l'air très simple sur le papier. Et en fin de compte, il doit y avoir une petite technique qu'on n'avait pas tout à fait maîtrisée au début.
Philippe.
Est-ce que le gâteau, c'est dans le monde entier, est-ce que le gâteau, c'est une tradition comme nous, on a un dessert et on mange un gâteau entre nous dans la famille, ou est-ce que c'est juste on fait des gâteaux et c'est sorti du menu dans le reste du monde? Est-ce que c'est un dessert ou est-ce que c'est un gâteau?
C'est parfois un gâteau, c'est-à-dire c'est un petit moment de fête. Alors si on peut prendre les États-Unis par exemple, le gâteau, c'est rarement le dessert en fait. Ça va être quand quelqu'un arrive à la maison, on les reçoit avec un gâteau.
D'accord.
Même le matin avec un café, ce qu'on appelle un coffee cake. Dans d'autres pays, le gâteau, c'est vraiment signe de bienvenue, en fait. Donc, ça peut être mangé n'importe quel moment dans la journée, pas forcément un dessert.
Un mot sur la pavlova, quand même, hein, qui est devenue un classique de notre pâtisserie. Elle vient de loin, la pavlova. Hein.
Elle vient de très loin. Elle vient de très loin et puis elle a un succès de dingue. Elle vient d'Australie. Alors, Nouvelle-Zélande d'Australie, en fait. Ils se bataillent un peu pour l'origine, mais je pense que c'est australien. Et c'était, en fait, créé pour une danseuse russe.
Une ballerine.
Exactement.
Anna Pavlova.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça ce qui est assez rigolo. En fait, on dirait qu'il est russe, mais pas du tout. Il vient effectivement d'Australie avec toute cette crème, ces jolies meringues avec plein de fruits. C'est très joli comme dessert, ça.
Ah ouais, j'en ai une jolie, moi, là. Page 112 d'un certain magazine, Pavlova aux fruits exotiques.
Ah bah super.
Et c'est vrai qu'elle prend tous les fruits, la Pavlova. Mais alors, encore mieux, vous connaissez le banoffee pie ou pas?
Oui.
Alors, c'est un dessert américain ou anglais?
Anglais.
Ah, bravo,
pas confondre.
Réponse. Et bien, dans le même magazine, et on vous donne la recette. J'adore le banoffee pie, dessert à base de bananes. Et c'est surtout un dessert qui n'a pas besoin de four. Il se monte tout seul, il se travaille au frigo. Donc assez simple à faire, c'est dans un certain magazine, pas mal il paraît. C'est numéro 7, ça s'appelle les petits plats de Laurent Mariotte.
C'est gentil, c'est en partenariat avec Europe 1, c'est pour ça qu'on en parle.
Mais moi je l'aurais pas dit,
Il est en kiosque depuis hier. C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. Il y a un Blender Power 5XL Connect de Magimix à gagner cette semaine. Écoutez ce bruit de cuisine, ça fait plusieurs semaines qu'il nous accompagne. Ce serait bien qu'il tombe aujourd'hui avec Alain Ducasse, qui nous rejoint dans un instant. Écoutons ce bruit de cuisine. un ingrédient et un ustensile. Allez, il y a les deux. Ils sont réunis. Je vous laisse deviner. Appelez le 3921 ou jouez sur europe1.fr. On revient dans un instant et on continue avec vous, Kathleen, à faire le tour du monde des gâteaux. Ça fait du bien en ce moment.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Ah oui, on se régale aujourd'hui autour de la table avec Kathleen Clarity, auteur du livre Gâteaux du monde aux éditions Hachette Cuisine, des gâteaux familiaux venus du monde entier que vous pourrez refaire à la maison. Ça vient de sortir. C'est vrai que la pâtisserie, hein, c'est comme la cuisine, c'est magique. Avant de se lancer dans le Paris-Brest et le Babo-Rhum, c'est bien de faire simple pour commencer. Le cake est un basique, on peut le dire, ça, Kathleen, par exemple.
Oui, c'est un basique, mais il y a quand même quelques petites techniques à connaître quand on fait un bon cake. Exactement.
Depuis quand mange-t-on des gâteaux? On arrive à le savoir, ça, Emmanuel?
Ah oui, oui, oui. En fait, je pense, et selon les historiens, surtout les archéologues, le gâteau apparaît en même temps que le sucre. Sauf que le sucre, il n'arrive pas dans son état brut. Et en fait, il arrive en même temps que le miel. À partir du moment où le miel va arriver, on va commencer à apporter cette manière de sucre dans les gâteaux. Alors, les premiers gâteaux, ils seront desséchés sur des pierres chauffées. Les premières traces, c'est 7000 ans avant notre ère. Et puis, bien sûr, les premières traces écrites, c'est du côté toujours et encore de la Grèce, et des Grecs. Le premier gâteau s'appelle Obélias, et ça rejoint ce que vous dites, ça signifie offrande. C'était souvent le gâteau un symbole d'offrande, de partage. Et
c'est parce un cadeau.
Le sucre, pendant des années, a coûté très cher. Mmh. Il y avait des guerres du sucre. Et donc, offrir quelque chose de sucré, c'est une marque de reconnaissance et une symbolique très forte.
Et puis, c'est vrai que comme la cuisine, la pâtisserie se renouvelle et flirte avec le goût de l'époque. En changeant certains ingrédients, par exemple, on peut relooker le gâteau yaourt, Kathleen.
Oh bah, complètement. Hein. Ça, alors, c'est un basique, c'est génial de faire avec des enfants. Mais pour lui donner un petit twist, on le fait un peu plus épais. On le coupe en deux. On tartine le centre avec peut-être un petit peu de crème montée, quelques petits fruits frais. On peut faire un petit caramel au beurre salé à côté pour le twister un peu.
On peut changer les agents sucrants. Hein. On peut mettre du miel, du sirop, du sucre de coco. On peut changer la farine aussi.
Ah, complètement. Ça peut être 100% maïzena. Ça peut être d'autres types de farine. Farine de châtaigne, farine de sarrasin que j'adore. Farine de pois chiche, pourquoi pas, comme pour les panisses. Enfin,
farine de lentilles même, hein, on en trouve. De quinoa. On s'amuse avec les farines. Et c'est vrai que c'est un essentiel, hein, la farine des gâteaux. On ne vous apprend rien. Et en France, Philippe, on a la chance d'avoir des minoteries d'exception quand même. Hein.
Oui, alors il y en a de plus en plus en fait. On pensait que c'était un peu un métier de carte postale qu'on ne voyait plus le meunier avec son moulin. En fait, c'est un peu comme les bières artisanales, etc. Ça revient, il y a plein de gens qui reprennent des vieux moulins. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence tous les trois entre un meunier et un minotier?
Ah, attention. Oui, c'est une bonne question.
Le
ça.
Meunier, il va travailler la céréale
Non, faut... non, le meunier, bah voilà, il moue et il transforme en farine.
Non. Ouais. Non. En fait, c'est la même chose. C'est juste une question de statut social. Ah. Le minotier, c'est le propriétaire, c'est le chef de l'entreprise. Le meunier, c'est l'ouvrier, celui qui fait le truc. Alors, on peut être du coup minotier et meunier,
meunier à la fois.
Parce qu'autrement, t'as le bon minotier, il fait de la farine et puis t'as le bon binotier, il fait aussi de la farine, mec. Tu comprends?
Vous avez des bonnes adresses de minoterie?
Oui, alors au début de l'émission, je vous ai parlé dans l'adresse de Claire Hugo de les farines des Cutéreux. C'est dans l'Aube. Ils font vraiment des super farines en bio. Vous avez le moulin de la Fatigue à Vitré. C'est un moulin depuis 1870, c'est en Bretagne. Eux, ils ont une production particulière. Ils ne font que de la farine de blé noir bio IGP Bretagne. Mmh. Et enfin, vous avez le moulin des Deux Rieux. C'est dans le village de Grande-Rieux en Lozère. C'est un moulin qui a été relancé en 2017, qui a été fermé depuis des décennies. Et lui, il produit de la farine de blé, de petite épeautre et de seigle.
Alors, on revient à votre livre « Gâteaux du monde, 100 recettes pour faire le tour du monde des desserts » chez Hachette Cuisine, Kathleen Clarity. Et vous nous avez apporté un gâteau. Alors moi, j'adore parce que déjà, je vois de la pistache. Et ça me met en joie, moi, toujours, quand je vois de la verdure comme ça sur un gâteau. Racontez-nous, il vient d'où celui-ci?
Alors, c'est un petit gâteau afghan. Alors justement, en Afghanistan, ça fait partie un peu de ces pays où il n'y a pas des gros gâteaux, c'est des petits individuels. Alors celle-là, elle s'appelle le Shirpira, et le Shirpira, ça veut dire « sweet milk », du lait sucré.
C'est ce que je voulais dire, il y a du lait concentré là-dedans.
C'est du lait. En fait, c'est du lait en poudre.
C'est
du lait
en poudre.
Ah oui. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça, voilà, je cherchais. Mais c'est du lait en poudre. C'est du lait concentré sucré.
Il y a une épice aussi, non?
Il y a un petit peu. Alors, il y a du fleur d'oranger, il y a un petit peu de cardamome, il y a des pistaches, il y a des amandes effilées.
C'est bon, ça.
Et on dirait un nougat, mais non, c'est à base de lait.
Oui, puis vous l'avez taillé un petit peu en losange, comme un calisson presque, qui lui est plus arrondi, mais ça ressemble un petit peu. C'est délicieux, ça s'appelle le Shirpira.
Le Shirpira.
Et ça vient d'Afghanistan. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'inflation en ce moment. C'est vrai que pâtisser à la maison avec des éléments essentiels, c'est une façon aussi de faire des économies, même si certains prix ont augmenté quand même. Le gâteau économique pour vous par excellence, c'est quoi?
Par exemple, un gâteau de Savoie.
Ah, c'est léger ça. Hein.
C'est léger, c'est délicieux, c'est facile à faire. Je me suis amusée à faire le petit calcul, c'est moins d'1 euro la part. C'est exactement 88 centimes la part.
C'est quoi, de la farine, des œufs?
Exactement, farine, œuf, un peu de jus de citron. Farine, œuf, jus de citron et un peu de sucre.
Et puis voilà, on monte les blancs en neige hein, ouais, dans un gâteau de Savoie pour qu'il ait ce côté aérien et léger. Hein. C'est tout une petite montgolfière pâtissière.
Et voilà. On mange toute la journée, du petit déjeuner jusque le soir.
C'est vrai.
C'est ça qui est agréable.
Avec la confiture, avec ce qu'on veut. Ouais, non, exactement.
C'est un souvenir d'enfance, hein. C'est un peu comme le gâteau au yaourt. On a tous fait des gâteaux de Savoie quand on était petit.
Exactement. Guy Martin du Grand Véfour ne jure que par le gâteau de Savoie.
Hein. Il en sert tout le temps.
Il en sert
au moment
tout le temps.
Du café, vous aurez toujours une petite tranche de gâteau de Savoie.
Et il a sorti un livre justement qui raconte les recette du Grand Véfour et on y retrouve évidemment le gâteau de Savoie aussi qui fait partie de nos pâtisseries classiques aujourd'hui. On parle de la possibilité de customiser et de changer les ingrédients en pâtisserie. Voilà, c'est QFD, c'est le cas de le dire, avec une pâtisserie que vous nous avez apportée. Racontez-nous quel ingrédient et par quoi d'autre vous l'avez remplacé.
Alors celle-là, c'est un gâteau italien, c'est la torta caprese,
si.
Donc la torte de Capri. Et en fait, il n'y a pas de farine. Mais il n'y a jamais eu de farine en fait, je ne l'ai pas remplacée. C'est fait avec de la poudre d'amande. Donc, ce qui apporte un moelleux de dingue. Bon, il y a un peu de beurre aussi.
Ah oui, mais on sent le chocolat parce que c'est un gâteau au chocolat.
C'est un gâteau au chocolat, exactement. C'est un temps portant chocolat et poudre d'amande. Et c'est super léger, en fait. Là, je l'ai fait poudre d'amande. On peut aussi mettre de la poudre de noisette, qui serait délicieux. On peut broyer nous-mêmes nos amandes pour avoir un poudre d'amande un peu rustique.
Et ça, il faut le dire, pour ceux qui sont allergiques au gluten, c'est une bonne manière de déguster des pâtisseries maison aussi.
Et bien, complètement.
Il y a plein d'alternatives, on le disait, avec les farines comme la farine de châtaigne, le petit épeautre. On peut s'amuser aujourd'hui à pâtisser en fonction de son régime alimentaire.
Bah, totalement, totalement. On peut désucrer, comme vous avez dit tout à l'heure, on peut changer les sucres, on peut ajouter des épices. Les épices vont donner tout de suite un super punch à un gâteau et qui va permettre en fait de réduire le sucre parce qu'on aura le goût avec les épices.
Et un petit mot sur le prix du beurre qui a augmenté. On peut s'amuser à remplacer le beurre par d'autres ingrédients aussi en pâtisserie. Ouais. Hein.
Alors là, lesquels?
Alors, pas les petits.
Il y a un breton parmi nous. Hein. Ça va vraiment mal se passer.
Attention, les purées de légumes. Alors, c'est un peu une mode. Je l'ai testé. C'est pas mal. Mais
les haricots rouges, par exemple.
Haricots rouges, hein, patates douces, courgettes, avocats.
Il paraît qu'on peut remplacer aussi par la compote de pommes.
Ah oui, ça marche très bien.
On remplace le beurre par la compote de
pommes. En fait, c'est ça ce qui apporte le moelleux.
D'accord.
Eh bien, compotons et pâtissons. Merci Kathleen Clarity d'être venue à cette table.
Top.
Gâteau du monde, 100 recettes pour faire le tour du monde des desserts. C'est paru chez Hachette Cuisine. Et nous allons recevoir un bec sucré dans un instant. Il adore la pâtisserie. Il a même ouvert une biscuiterie, c'est pour vous dire, et une chocolaterie. C'est Alain Ducasse, oui, le chef le plus étoilé au monde, sera dans nos murs dans un instant au Studio Coluche. On est heureux d'être avec vous et on revient dans un instant. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous revoilà. Toujours en bonne compagnie avec mes bons vivants du jour, Emmanuel Rubin, que vous pouvez lire pour ses très bonnes critiques gastronomiques dans le Figaro, et Philippe Toinard, le rédacteur en chef de la revue 180 degrés. Alors avant d'accueillir Claire Dutronc avec une nouvelle expérience en pâtisserie, un petit mot tiens sur un journal de campagne, ça s'appelle Regain. Ça va faire 4 ans que ce magazine a fait son nid dans les kiosques. Alors moi je l'aime beaucoup parce qu'il met en avant la nouvelle génération paysanne, les métiers de la ferme, la vie animale, les traditions, les festivals. Je trouve qu'il montre la belle intelligence de nos campagnes, le bon sens paysan, mais pas que.
Oui, c'est vrai. Alors, on peut peut-être juste leur reprocher un petit côté les citadins qui débarquent à la campagne.
Un petit peu chic, oui.
Oui,
voilà.
Mais c'est assumé. Donc, à partir du moment où c'est assumé, voilà. Tout est produit, il faut savoir, hein, les textes et surtout les photos. Et dans le dernier numéro, on apprend toujours quelque chose. La station Uval, je ne connaissais pas, dans les années 30,
moi non plus.
Ce sont des espèces de petites baraques qui fêtaient le raisin au moment donc, des vendanges. Il y en avait partout en France, plutôt dans le sud, dans les années 30. Elles sont toutes disparues, mais il y en a encore une du côté de Marseille. Et le magazine de Regain en fait un reportage. C'est un petit endroit où tu viens boire ton jus de raisin.
Voilà, c'est la période des vendanges, du raisin, et on prend le raisin, on le presse, c'est une petite buvette comme ça qui est mise sur les
Étonnant.
Parkings, et on vend ce jus de raisin, et ça encourageait les gens aussi à faire cette monodiète de raisin et à boire du jus de raisin.
Mais
bien sûr. Philippe.
Alors c'est vrai que ça, c'est typiquement un reportage qu'on aime bien découvrir, parce que c'est de montrer... la richesse qu'on peut avoir en France auprès des paysans, auprès des producteurs, des artisans. Et c'est le boulot de Regain, c'est de mettre en avant des gens. Alors, comme le dit Emmanuel, il y a un côté un peu citadin qui va à la campagne, mais c'est aussi ce qu'on cherche quand nous, on va tous en province pour des vacances, c'est de trouver aussi, ben, on en parlait, un minotier, un vigneron. Enfin, voilà. Et Regain fait bien le taf pour aller chercher des gens méconnues et qu'on a besoin de mettre en avant.
C'est ce que vous faites aussi dans 180 degrés, hein, votre revue des recettes et des hommes. Et à propos de Regain, je signale Regain en campagne. C'est un livre qui réunit en fait tous les magazines de l'année et ça vous permet effectivement de retrouver comme ça ces endroits partout en France qui préservent la tradition et qui en même temps font entrer de la modernité dans cette tradition avec, comme vous le dites, des citadins, des néo-ruraux qui s'emparent de nos campagnes aussi.
Et ça fait vivre le kiosque aussi. La presse écrite, il n'y a quand même plus beaucoup de magazines qui se lancent. Quand un réussit, il faut le saluer.
C'est pour ça qu'on soutient la presse écrite ici. Et on soutient aussi les gens qui connaissent des déboires, parfois en cuisine. Il faut être solidaire et ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et nous avons une spécialiste en déboires. On a de la chance parce que parfois elle se gourde d'une mesure, elle se gourde d'une température, d'une cuisson. C'est Claire Dutronc. Bonjour Claire.
Bonjour Laurent. Bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine?
Bah écoutez, je crois que malheureusement le sort s'acharne en effet. Ça s'est passé le week-end dernier. J'étais invitée chez des amis en Bourgogne. Quand j'arrive, je me rends compte très rapidement que je suis la seule à qui on n'a pas demandé d'apporter quelque chose pour le premier dîner. Bon, c'est pas la première fois.
Ça vous vexe, ça.
C'est vexant. Et là, mais en fait, non seulement c'est vexant, mais ça m'énerve. Donc, quand je regarde les provisions prévues pour le week-end, je vois que j'ai ce qu'il faut et j'ai le temps de leur préparer un cake salé jambon fromage.
Mais ça, vous êtes capable.
J'en suis capable. Je remercie de votre confiance. Oui. J'en ai déjà fait. Je sais que je sais faire. Je fonce. Je n'écoute pas mes amis qui me disent « Mais non, allez, t'embête pas. Franchement, t'es fatigué que ta semaine. Va te reposer dans le jardin. » Enfin, les excuses habituelles
Bois
que j'entends. «
Bois un mets-toi devant
voilà,
le feu. »
Voilà, c'est ce que j'entends à chaque fois. Non. Là, franchement, j'en ai marre. Je m'empare d'un saladier. Je mélange tous les ingrédients nécessaires. Je verse le tout dans un moule que je mets au four. Et hop, je me dis, dans moins d'une heure, la gloire sera à moi.
Moi, je suis avec vous, j'y crois.
Je vous remercie de votre confiance. Ça me touche, pour une fois. Au bout de 45 minutes, je trouve que mon cake n'est pas trop mal. Mais je pense que je peux faire un peu mieux. Il peut être plus chouette avec quelques minutes de cuisson en plus. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? J'éteins le four. Et je laisse le cake à l'intérieur pour qu'il finisse sa cuisson tout seul.
Oui, vous comptez sur l'inertie de la chaleur qui va continuer à le cuire. On en parle souvent
ça doit,
ici.
Ça doit être ça. Moi, je prends un verre tranquillement au salon avec mes amis. Mais tout d'un coup, je sens une odeur bizarre. Vous savez, une odeur de brûlé, mais pas seulement une odeur. Franchement, j'aurais du mal à le définir. Qu'est-ce que je commence un peu à paniquer. Je me précipite dans la cuisine. Et là, je vois une espèce de grosse croûte noire au-dessus de mon cake.
Mais non.
Mais si, comment c'est possible que ça soit autant brûlé? Je vous assure, Laurent, j'avais éteint le four.
Alors,
il y a mon ami qui débarque et je n'ose même pas vous dire ce qu'il m'a dit, en fait.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, Claire, tu n'as pas vraiment éteint le four, tu as mis en route la fonction pyrolyse.
Oh non,
Vous savez ce que ça veut dire?
Oui, je sais ce que ça veut
dire.
Mon
doigt a ripé.
Ça veut dire que vous êtes très mal barré, la fonction pyrolyse. Vous en avez pour trois quarts d'heure, une heure, et puis ça bastonne plein pot.
Oui, mais le four était propre.
Mais le cake en cendre, alors.
Je veux dire que 45 minutes plus tard, parce qu'il a fallu 45 minutes, Laurent, pour qu'on puisse avoir accès à mon cake chéri. 45 minutes. Enfin, ce qu'il en restait, c'était plus un tas de cendre qu'un cake. Et en plus, c'est la honte, j'ai dû racheter un plat.
C'est vrai, c'est pas pour la petite histoire, c'est vrai.
Mais oui, mon doigt.
C'est ça qui est dingue, tout ce qu'elle raconte est vrai.
Mais c'était le samedi.
C'était un samedi.
Pourquoi vous n'avez pas recommencé le dimanche?
Parce qu'ils m'ont vraiment interdit d'accès à la cuisine. Ils m'ont dit non, j'ai plus de plat à force.
Un petit truc pour savoir si le cake est cuit, tout simplement, on prend un couteau, on rentre la lame dans le cake. Et quand la lame ressort et qu'elle est sèche, qu'il n'y a plus de matière du cake qui colle à la lame, c'est qu'il est cuit. Ça, c'est le petit truc. Voilà, comme ça, vous n'auriez peut-être pas été obligé de le mettre en fonction pyrolyse.
À 500 degrés près, il était bien.
À 500 degrés près, vous étiez pas mal.
Et voilà, je vous remercie.
Et ben on compte sur vous pour vivre de belles aventures encore de déboires en cuisine.
Je ne sais plus, je me décourage.
Vous êtes notre représentante. Allez, c'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. Europe 1 vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix. C'est votre nouveau partenaire santé et bien-être. Il est connecté en Bluetooth pour des recettes équilibrées et gourmandes. Ce Blender Power est doté d'un moteur professionnel garanti 30 ans, livré avec 85 recettes. Et bien, on accueille notre première auditrice pour découvrir et écouter ce bruit de cuisine. Bonjour Laura.
Bonjour Laurent, bonjour la table des bons vivants.
Ah, bonjour. Merci d'être bonjour, avec nous. Vous nous appelez d'où Laura?
Alors j'habite à Marly, près de Metz.
Ah oui, très très belle ville, la ville de Metz aussi, où on a de très belles pâtisseries aussi en Lorraine. Bah évidemment, on adore la Lorraine. Dites-moi Laura, je disais qu'on allait découvrir ce bruit, pas du tout, hein, ça fait 15 jours au moins qu'il nous accompagne. C'est un ingrédient et un ustensile qui se rencontrent pour faire quelque chose. Alors on va voir si vous avez une petite idée. On le réécoute ce bruit de cuisine. Josène Balesco proposait quelqu'un qui fait des castagnettes, ce n'est pas ça.
Alors moi je pensais à l'ouverture d'une coquille Saint-Jacques.
Oh,
ah, technique.
Ah, ça, c'est bien vu. J'en ai ouverte ce week-end.
Qui ripe sur les petites stries, là. Oui, c'est bien,
exactement,
bien tenté.
La lame qui coupe au-dessus de la barde, ouais, et effectivement, avec le petit bruit du coquillage.
Et là, la réponse ?
Eh ben, c'est pas ça. Ah, c'est ballot, mais votre acharnement m'a plu. Donc, on vous envoie Gâteau du Monde de Kathleen Clarity, le beau livre dont on a parlé.
Ça.
On vous l'envoie pour vous. Merci, Laura, d'avoir joué
super,
avec nous.
Merci.
On vous
merci.
Embrasse. Merci de votre fidélité. On va rejouer dans un instant et on sera avec Alain Ducasse. Tiens, peut-être qu'il a une idée. Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde, il vient nous voir avec un très beau livre où il se raconte une vie de goût et de passion. C'est paru chez Lattès. On se met à table avec Ducasse dans un instant. A tout de suite. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Enfant dans les Landes, il s'imaginait architecte, aventurier ou cuisinier. Aujourd'hui, il a réussi son pari. Il est un peu aventurier, un peu architecte et bien entendu cuisinier. C'est un des chefs les plus secrets de France. Il se raconte dans une vie de goût et de passion parue chez Lattès. C'est Alain Ducasse. Bonjour Alain Ducasse.
Bonjour Laurent.
Comment ça va ?
Pour le mieux.
Pour le mieux. On est content de vous avoir à cette table. Je vous ai suivi ces derniers jours. Vous en avez fait des miles, hein ?
Oui, bien sûr.
Singapour, en fait. Le Japon, New York.
Oui, n'a pas.
Combien de restaurants dans le monde ?
Quelques-uns.
Une vingtaine. Vous ne les comptez plus à ce point-là ou
on
pas ?
On dit ça, oui.
On dit ça ? Qu'est-ce que vous faites le samedi matin habituellement à cette heure-ci, Alain Ducasse ?
En fonction de là où je suis, je vais au marché le samedi matin. Je vais voir les belles racines pour les mijoter tranquillement. Voilà.
Mais vous avez toujours ce goût de la curiosité. Je vous connais bien depuis quelques années. C'est vrai que le marché, vous y passez un temps fou. Vous y êtes de très très bonne heure sur les marchés.
Parce qu'après, il y a trop de monde. Et après... les meilleurs produits, il faut y être de bonne heure.
Hein. On est d'accord. Et vous avez...
C'est pour ça. Il faut vraiment que j'arrête la nuit, moi.
Il faut arrêter de sortir
tard. Si on arrive à 11h du matin sur un marché...
Il n'y a plus grand-chose.
Ce qui est très beau et très bon est déjà parti, hein, heureusement.
Et je parlais de votre goût de la curiosité. Vous êtes arrivé ici à Europe 1, on était avec Kathleen Clarity en train de parler des pâtisseries du monde et hop, tout de suite, vous êtes allé voir ces petites pâtisseries qu'elle nous a apportées, qui sont des pâtisseries d'Afghanistan qu'elle a faites avec du lait en poudre concentré. Toujours ce goût de la curiosité chez vous, hein. Vous en parlez évidemment dans votre livre, Alain Ducasse. Ça s'entretient ou c'est quelque chose que vous avez depuis toujours, ça ?
Non seulement ça s'entretient, mais depuis toujours, je suis curieux de ce que je n'ai pas encore goûté et j'espère que ce soir, je vais être... Encore surpris, c'est ma quête permanente partout dans le monde, chaque fois dans une ville. J'étais à Singapour, j'ai découvert une table que je ne connaissais pas, c'était délicieux. Voilà.
Ce soir, vous serez du côté de Brive parce que vous signez tout le week-end au Salon du Livre de Brive votre livre, Une vie de goût et de passion, paru chez Lattès. Et à ce propos, vous allez déjà dans une table que vous avez repérée, j'imagine.
J'ai repéré, c'est une jeune chef qui a travaillé sur 3 continents pour moi, qui a travaillé dans 10 de mes restaurants. Qui s'appelle Fabienne, elle est à Terrasson, elle est née à Terrasson, elle retourne à Terrasson, elle va être l'aubergiste de Terrasson. Je me réjouis de cela.
On reçoit plein de chefs ici, hein, qui retournent comme ça dans leur berceau d'origine. Nous aurons tout à l'heure une chef que vous connaissez bien, qui s'appelle Marie-Victorine Manoa, qui est au fourneau de votre restaurant Les Lyonnais.
Ah oui, bien sûr.
Il ne le savait pas.
Non,
on lui a dit.
Elle a la liberté de faire et d'accepter l'invitation de Laurent Mariotte, c'est bien.
Eh bien oui, mais vous allez voir pourquoi, et on ne vous dit pas ce qu'elle va faire. Mais c'est une recette qui vous parle, je pense. Quel est votre goût de la semaine, Alain Ducasse ?
Acide, amer. Et j'ai goûté hier mon sorbet pamplemousse qui était acide, amer. Et c'était le goût juste. Peu de sucre, la bonne consistance, la bonne amertume, la bonne acidité. Voilà,
c'est pas une saveur facile à faire passer en France, hein, l'amertume. Les Italiens y arrivent bien.
Il faut l'imposer.
Il faut l'imposer. Un chef doit éduquer, vous pensez.
Il doit faire goûter. Oui. Il doit...
Alain Ducasse, vous êtes un jeune papa de 3 enfants. Est-ce que la paternité a changé votre façon de cuisiner ?
Non, c'est leur faire découvrir que les produits naturels étaient les meilleurs et sans jamais dévoyer le goût originel, avec le juste assaisonnement, pas trop de matière grasse, certainement pas de sucre. Voilà, le végétal d'abord, la protéine ensuite.
Alors je viens de finir votre livre, hein, Une vie de goût et de passion. Ça commence dans votre ferme de Chalosse, dans les Landes. Vous parlez de votre grand-mère et vous parlez d'un mot que j'aime beaucoup, qui est un mot qu'on oublie un petit peu peut-être. C'est le mot labeur. Vous parlez du labeur de votre grand-mère quand elle s'occupe de son potager, de son jardin. Et vous dites que là, on mange les choses en conscience. Les choses n'ont pas le même goût quand on sent qu'une personne qu'on aime n'a pas passé autant de temps dans son potager.
Surtout que la terre est basse. Hein. Pour ramasser, il faut, pour aller cueillir, il faut se baisser. Quoi. D'abord, il faut avoir cultivé, il faut l'avoir travaillé, cette terre. La terre ne donne rien par hasard. Hein. Il faut avoir fait attention au végétal. Il faut l'avoir arrosé, justement, pas trop. Enfin, il faut l'avoir... pour avoir le plaisir de manger de bons légumes, il faut travailler. D'avoir un jardin, ce n'est pas pour économiser, c'est du temps passé et vous méritez bien ce que vous mangez.
Alors c'est un mot qui vous a parlé aussi, hein, Philippe Toinard, le mot labeur. Et vous voulez justement parler des producteurs qu'il faut payer à leur juste prix, à hauteur de leur travail.
Oui, parce que Alain Ducasse, vous revenez dans votre ouvrage sur votre prise de conscience du labeur à travers deux exemples. Alors le premier s'appelle René, c'est un producteur de fraises des bois sur les hauteurs de Nice, qui faute de personnel vous demande de les cueillir vous-même et semble-t-il vos reins, a priori, vous s'en souviennent encore aujourd'hui. Et le second, c'est pour une autre version, c'est un producteur de beurre dans le Finistère qui s'appelle David Akpa Mangbo, que j'ai connu aussi, qui vous indique qu'il va devoir augmenter le prix de son beurre et vous acceptez, parce que vous êtes conscient que le travail réalisé par ce producteur mérite cette augmentation. Et à travers ces deux exemples, vous parlez dans votre livre du goût du labeur.
Mais vous, Philippe, vous vous en donnez une autre définition du mot labeur.
Moi, je pense qu'il faut parler du coût du labeur, qui est souvent sous-évalué. Alors, je ne reviens pas sur les délais de paiement que doivent subir certains producteurs, quels qu'ils soient, et qui parfois mettent en péril leurs exploitations, mais revenir sur deux inepties de rémunération.
Alors la première concerne le lait, hein, on est tous au courant.
Alors c'est pas le seul exemple, mais effectivement c'est criant parce qu'un producteur, un agriculteur, un producteur de lait, ne décide pas du prix de son litre de lait. Donc je fais une parenthèse, admettons, Laurent, vous recevez un plombier et vous dites que pour changer le robinet, vous mettez 150 euros. Voilà, c'est le principe. Alors dans le lait, on impose ce principe. Toute l'année, l'agriculteur, il s'occupe de son troupeau, il traie, il s'occupe des soins vétérinaires, il s'occupe des vélages, de la production des céréales pour nourrir son cheptel, les moissons pour la paille, le foin, le maïs. Tous ces travaux en amont, quel que soit leur coût pour l'agriculteur, et ils diffèrent d'une ferme à l'autre, ne sont pas répercutés sur le prix du lait. Et quand l'agriculteur traite sa vache, il ne sait pas exactement combien il va toucher par litre de lait. Et dans ce système laitier, c'est l'acheteur qui décide du prix. Et même si le prix aux 1000 litres a été revu à la hausse, ce n'est rien en comparaison de l'augmentation des coûts de fonctionnement, notamment en 2022, avec la crise énergétique et la sécheresse.
Alors ça, c'est un exemple, mais il y a un deuxième exemple encore plus criant, Philippe Toinard.
Ouais, on va rester dans les animaux, dans l'univers de la vache. Alors, je vous prends le cas d'un éleveur de vaches laitières ou de race à viande, peu importe. Quand il vend une bête à l'abattoir, il n'est rémunéré que pour le poids de la carcasse froide. Alors, on va prendre l'exemple d'une vache à viande qui part de la ferme à 680 kg. L'éleveur sera rémunéré sur la base de la carcasse froide, soit environ 364 kilos. Et son revenu dépendra aussi de son classement en viande supérieure, très bonne, bonne, assez bonne ou passable. Si vous avez fait le calcul, il y a quand même un certain nombre de kilos qui ne sont pas payés à l'éleveur. Or, ces kilos, eux, sont valorisés, comme les viscères, le gras de surface qui sert pour l'énergie et la peau. Parce qu'on part d'un principe qui est que la peau appartient à l'abatteur et pas à l'éleveur. Or, que fait-on de ces peaux quand elles sont de qualité, notamment les peaux de veau? Eh bien, elles sont vendues par l'abatteur à des tanneurs. Et pour l'éleveur, ce sont des euros qui s'envolent parce que lui, il a pris soin des bêtes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il serait donc logique qu'à partir du moment où la peau du veau qui a été élevée se transforme en un magnifique sac à main à quelques centaines d'euros, voire de très jolies chaussures,
on va se faire des copains.
Ce serait normal qu'il soit rémunéré pour son labeur.
Ah, Alain Ducasse, une petite, c'est une belle réflexion, Philippe Toinard, ça.
Bien évidemment, mais est-ce qu'on va changer le monde? Il faut en avoir conscience et essayer d'agir.
Et bien nous, on va continuer de vous découvrir avec ce livre, Une vie de goût et de passion, paru chez Lattès. On revient juste après les titres d'Europe Midi et Marie-Victorine Manoa, la chef du restaurant au Lyonnais, sera avec nous pour une recette de légende. De quelle recette s'agit-il? Réponse après les titres d'Europe Midi avec Alain Ducasse.
Allez, on envoie le bar à la 2, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une fribre.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, hop, allez, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez,
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous, bienvenue hein, si vous arrivez et merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Alain Ducasse est notre invité en exclusivité sur Europe 1 pour parler de son livre « Une vie de goût et de passion » paru chez Lattès. Bientôt le plat du jour, mais juste avant je voudrais parler de ce que j'entends là. C'est une boîte de biscuits parce que vous n'êtes pas venu les mains vides. On vous connaît comme le cuisinier le plus étoilé au monde, Alain Ducasse, mais vous êtes aussi un artisan. Artisan glacier, on en a parlé tout à l'heure. Artisan chocolatier avec votre manufacture de chocolat qui est une référence aujourd'hui. Et puis, vous vous lancez dans le biscuit.
Et avant, on a fait la torréfaction de café.
Aussi, et les cafés, absolument. J'avais oublié les cafés, excusez-moi. Hein. Il y en a tellement. Et puis, tiens, on va parler de ce que vous allez ouvrir dans un instant aussi, ça vous apprendra. Ah, si, si, on va parler quand même. Bah, si, vous êtes là pour annoncer des choses. Qu'est-ce que c'est que ces biscuits, là, j'en vois avec du gruet, avec du café, du seigle, des pois chiches. Vous avez revisité le biscuit, en fait.
Oui, l'idée c'est de faire des biscuits différents, avec un goût différent, avec une granulométrie différente, un beurre délicieux, moins de sucre. Goûtez, goûtez. L'idée c'est qu'il soit...
Je les connais.
différemment bon.
Voilà, je suis tombé. Blé, vanille, amande, c'est bon ça.
C'est un an de travail à mettre au point. Ces 27 biscuits, c'est un an de travail. On y a passé des jours, des heures, des mois. Voilà.
C'est un autre métier que celui de cuisinier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ça, dans ce métier d'artisan?
D'essayer de proposer quelque chose dont on ne connaît pas encore le goût.
Vous avez un vrai esprit de compétition, Alain Ducasse.
Enfin, de compétition, de hors compétition plutôt, puisque je veux faire ce que ne font pas encore les autres.
Oui. Alors à propos, on y va, parlons des charcuteries de la mer. J'ai vu que vous l'aviez annoncé quelque part.
Oui.
On peut le dire, ça.
On y travaille. Il me faut entre 10 mois et 10 et 15 mois, oui, avant de pouvoir ouvrir une charcuterie de la mer avec des légumes marins et des algues, certainement. Oui, il me faut 12 mois de travail.
Mais c'est quoi
travail.
Charcuterie de la mer, c'est reprendre les textures, les fondamentaux de la charcuterie, marin. Travailler avec
marins, oui.
Ah ouais, d'accord, c'est ça.
Oui. C'est un chorizo de poule, par exemple. C'est
le vol-au-vent
de Olivier Pouls. Voilà. Mais il va pas tout dire encore, Alain Ducasse.
Une palotine de Saint-Jacques.
On travaille.
Alors justement, à propos de travail, vous aimez travailler et découvrir et passer la main à de jeunes chefs. Et nous avons une jeune chef qui vient d'arriver au studio Coluche. C'est Marie-Victorine Manois, qu'on connaît bien ici. Elle est déjà venue à cette table. Bonjour Marie-Victorine.
Bonjour.
Vous êtes la chef du restaurant Au Lyonnais. Vous êtes passée par d'autres maisons avant de travailler avec Alain Ducasse, parce que Au Lyonnais, c'est un restaurant Alain Ducasse. Vous êtes allée chez Trois Gros. Votre papa, Jean-Louis Manois, tient le Mercière.
À Lyon.
Donc vous êtes... pas une mère lyonnaise, mais vous êtes une fille lyonnaise.
Voilà, hein, c'est ça. Pas encore mère, mais bon, dans l'envie en tout cas.
C'est vrai. Et donc, vous aimez travailler les produits tripiers, vous aimez travailler la cuisine classique, la tradition. Et je vais vous faire une confidence. J'étais hier soir en train d'acheter des morceaux à pot-au-feu chez un boucher parisien. Et on parlait de langue de bœuf. Et il m'a offert une langue de bœuf parce qu'elle arrivait, bref, il me dit j'adore la langue de bœuf, j'adore les abats. Il me dit il y a une chef qui m'inspire aujourd'hui, c'est Marie-Victorine Manois, parce qu'elle travaille les abats. Vous inspirez la jeune génération des bouchers.
Je pense que ça fait partie de mon tempérament. J'aime bien les produits boudés, les produits qu'on ne va pas utiliser. Aujourd'hui, il faut savoir que les animaux, enfin en tout cas à l'abattoir, sont tués et 30% pas consommés. C'est-à-dire que c'est terrible. Aujourd'hui, il faut remettre sur table tous ces produits boudés qui sont délicieux et qui font partie de notre culture quand même. J'adore travailler les abats.
Comment vous avez découvert Marie-Victorine Manois? Racontez-nous, Alain Ducasse, alors.
Pendant le confinement, elle faisait chez elle, elle recevait quelques clients. Sous le manteau, je dirais. J'ai fait un délicieux déjeuner et j'ai dit un jour, Marie-Victorine, vous allez me rejoindre. Voilà, c'est pour c'est ça.
Et vous lui avez fait une recette.
C'est toujours une histoire de rencontre. Hein.
Qu'est-ce que vous lui avez fait à manger alors, Alain Ducasse?
J'ai fait. Donc, on a fait plusieurs plats pendant ce repas-là et j'ai voulu faire des recettes percutantes, en tout cas qui me tiendraient à cœur. J'ai fait le gâteau de foie blond. C'est un hommage à Alain Chapelle, un chef que j'affectionne beaucoup et qu'on a un petit peu
même si Marie-Victorine n'était pas née quand il est décédé.
Vous avez démarré chez Alain Chapelle, Alain Ducasse.
De par sa philosophie, moi j'aime beaucoup les recettes qui laissent un peu de sensation, qui ne sont pas toutes pesées, assaisonnées au goût, versées sur une assiette en porcelaine tiède, ce genre de détails qui sont de l'ordre vraiment de la sensation. C'est ce chef-là qui me les ont apportées. Donc là, on a fait une sauce. Aujourd'hui, on décrème un petit peu. Hein. La cuisine, elle reste très gourmande, mais un petit peu rafraîchie. Donc c'est des sauces qui sont un petit peu plus légèrement tranchées, réduites de par le jus et le collagène et non pas par des réductions de crème. Voilà, c'est une cuisine historique, mais un petit peu plus fraîche.
Gâteau de foie blond de volaille, c'est une institution de la cuisine française. Mais dis donc, c'est gonflé quand même de faire ça à Alain Ducasse qui a fait cette recette quand il bossait avec Alain Chapelle. Dis donc, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de retrouver une émotion de goût.
J'ai eu très très peur quand j'ai reçu
le
chef.
Alain, le plus difficile, c'est de trouver des beaux foies blonds.
Ça, c'est grâce au chef.
De volaille. Et pour ça, une ferme dans le nord des Landes qui s'appelle la ferme de Tauzé, chez qui j'avais goûté des foies blonds extraordinaires. Et comme il n'y a qu'un foie par volaille, on doit acheter quelques volailles pour avoir les foies. Donc c'est un deal. Et pour avoir des foies de cette haute qualité, pour pouvoir faire ce gâteau de foie blond, encore faut-il avoir une volaille avec un très beau foie blond.
Voilà. Sinon, on ne peut pas le faire. C'est pas quand on dit blond, c'est des foies qui sont blancs. On n'a pas l'habitude de voir des foies comme ça. C'est magnifique. On dirait un petit foie gras. C'est très joli.
Est-ce que vous avez retrouvé l'émotion du goût quand vous dégustiez ce plat chez Alain Chapelle, Alain Ducasse? Parce que vous avez fait des kilomètres avant de travailler pour lui avec votre ami 8. Vous êtes parti de Mougins avec des copains cuisiniers.
500 kilomètres. Exactement.
C'est ça, 500 bornes. Mille allers-retours pour aller manger chez lui et déguster ce gâteau de foie blond. Vous avez retrouvé cette émotion-là quand vous l'avez dégusté avec Marie-Victorine?
Bien sûr, parce que cela tombe juste en température, en assaisonnement, avec un très beau produit. C'est on maîtrise ou on maîtrise pas. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, on sait faire ou on sait pas faire. Point barre. Et Marie-Victorine sait faire.
Il y a un très beau chapitre sur Alain Chapelle dans votre livre, là, Une vie de goût et de passion, que vous dédicacez ce week-end à Brive. Qu'est-ce qui vous a appris ? Qu'est-ce qui vous a apporté, Alain Chapelle ?
Il m'a appris de regarder avec justesse l'harmonie du début du repas jusqu'à la fin, que tout cela tombe juste. Retirer tout ce qui n'est pas nécessaire, ne garder que l'essentiel. Et quand il ne reste que l'essentiel, il faut que le trait soit juste au plus fin.
Alors, on est avec Marie-Victorine Manoa du restaurant lyonnais ici au studio Coluche. Philippe Toinard, j'aimerais qu'on parle du rapport d'Alain Ducasse avec les femmes chefs. Parce que ça fait très longtemps qu'Alain Ducasse transmet et s'entoure de femmes chefs en cuisine.
Hein. Alors, c'est vrai que c'est un débat latent depuis quelques temps sur la place des femmes en cuisine. Et alors, vous avez quand même une particularité, Alain Ducasse, c'est que vous savez valoriser le travail des femmes et vous savez les mettre en avant. Alors, je vous donne des prénoms, mais vous les connaissez évidemment. Flora, ça c'est pour les biscuits. Jessica, Kelly, Marie-Victorine, évidemment. Charlotte, est-ce que quand vous choisissez un ou une chef de cuisine, est-ce que le talent est décelable chez la femme de façon différente de ce que vous avez eu l'habitude de faire pendant des années où il n'y avait pas de femmes dans les cuisines?
Je dis qu'il y a plus de sensibilité dans la cuisine au féminin, parce que c'est certainement l'origine du matriarcat, enfin, de la femme cuisinière. Il y a plus de sensibilité. Nous, les hommes, on est dans une compétition. La femme chef, elle va s'attacher à faire plaisir à plus de sensibilité.
Alors, s'il y a plus de sensibilité chez les femmes, qu'est-ce qu'il y a de moins? Et qu'il y a de plus chez les hommes,
il y a
moins.
Il y a que du plus. Mais chez les femmes, il n'y a que du plus.
Ah, il n'y a que du plus.
Marie-Victorine, elle est une excellente technicienne. Et en plus, il y a la sensibilité d'une cuisine que j'aime. C'est pour ça que je lui ai confié mon bistrot. Enfin, Kelly, elle est chef chez Benoît. Charlotte, elle est chef chez Alain.
Alain.
Marvic, elle est chef chez Sapide. Voilà. Et je trouve que ces cuisines-là mérite une sensibilité supplémentaire et je le retrouve. Je ne dis pas que demain, je n'aurai pas un chef chez Alain. Enfin, tant que faire se peut, je vais essayer d'être dans cette lignée de fameux chefs parce que je trouve que les bistrots de belle gastronomie méritent la sensibilité d'une cuisine de femme.
Eh ben, merci pour cette belle sensibilité, Marie-Victorine Manoa. C'est un délice, ce gâteau de foie blanc, oui, de volaille. On le retrouve à la carte du restaurant lyonnais.
Absolument, en ce moment, oui.
Et en ce moment aussi, il y a un sabaudet lyonnais de la maison Candy qui est cuit au gène.
Retour de vendange de la famille Lapierre.
Et j'ai dégusté chez vous l'autre jour une excellente tête de veau sauce gribiche.
Parfait.
Aussi. Donc continuez comme vous le dites et j'aime ce mot. Et il vous l'a même piqué, Emmanuel Rubin, ce mot. Vous avez rafraîchi la cuisine lyonnaise et la cuisine de tradition.
Ah, oui. En ayant un petit...
Ah, mais c'est la vérité.
C'est ça,
rare. Généralement, c'est plutôt nous qui soufflons dans l'oreille des chefs des mots. Mais là, c'est dernière, c'était la dernière étape du dimanche.
Exactement.
Nous dégustions un plat à l'emploi et ce mot de rafraîchi, je déteste revisiter, le réinventer.
C'est ça.
J'ai dit, c'est exactement ça, je lui ai piqué.
Et ben voilà. Et ben merci, Marie-Victorine Manoa.
J'en suis ravie, merci beaucoup.
La jeune chef qui inspire les bouchers, voilà, et c'était une surprise pour Alain Ducasse. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, tiens, cher Philippe Toinard, au fait?
Alors, on va rebondir sur deux, trois petits vins comme ça, on va rebondir sur ce que vient de dire Marie-Victorine, puisqu'elle parlait de la pierre. On aurait pu servir un joli Morgon, puisqu'on est dans la cuisine lyonnaise, donc on serait resté dans le Beaujolais. Moi, je serais parti sur un fleuri de chez Jean-Louis Dutrève du domaine de la Grand Cour, parce que c'est des très beaux fleuris, et en plus, il est en train de passer la main tranquillement à ses enfants. Et ce que je vous ai mis dans vos verres, c'est un Carignan, donc là, on est dans l'Aude, on descend bien plus au sud, mais c'est assez goulayant, c'est rafraîchissant. C'est un vin, on va dire, nature. C'est travaillé en cuve inox et c'est un 100% Carignan qui est plutôt bien fait. Je trouvais qu'il va assez agréablement avec ce plat.
Eh bien, on valide. C'est l'heure d'accueillir notre deuxième auditrice pour tenter de trouver notre bruit de cuisine. Europe 1 vous propose de gagner un blender Power 5XL Connect de Magimix, connecté en Bluetooth, livré avec 85 recettes saines et originales. Vous avez rendez-vous sur l'application Magimix pour en savoir plus. Et nous avons Françoise au téléphone pour jouer avec ce bruit de cuisine. Bonjour Françoise.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour.
Et bonjour Monsieur Ducasse.
Ah,
bonjour.
On ne parle pas tous les jours à Alain Ducasse, vous avez un truc à lui demander, tiens.
Là,
qu'est-ce que vous voulez lui dire?
C'est un souvenir ébloui de dîner chez lui.
Ah, c'était où?
Ah ouais. Alors c'était avenue Raymond Poincaré et on est aussi allé au Plaza Athénée, mais enfin il y a longtemps.
Hein, eh bien dites donc, avenue Raymond Poincaré, le restaurant que vous avez repris après Gérald Robuchon. Et il est de bonne humeur, je vais vous dire un truc, il est de bonne humeur Alain Ducasse aujourd'hui, il va vous aider.
Toujours de bonne humeur.
Et, oui, mais il va vous aider à, comment dirais-je, à trouver ce bruit de cuisine. Hein, et on écoute ce bruit de cuisine. C'est un ingrédient passé dans un... C'est compliqué, hein, dans un ustensile.
Pour moi, c'est évident que c'est de l'ail qu'on écrase. avec un épluche ail. Après, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas.
C'est possible. Ouais.
C'est possible, ça.
Ouais, c'est possible, ça peut faire ce bruit. Ouais.
Eh bien, c'est gagné, Françoise.
Génial.
C'est gagné. Bravo, c'est bien vu. Ça faisait quelques semaines qu'il nous accompagnait. Vous gagnez ce fameux Blender Power 5XL Connect de Magimix.
Très fort.
On
très
vous
fort.
L'envoie chez vous.
Super.
Vous habitez où?
Merci. À Fontenay-sous-Bois.
Ah, ben on vous l'envoie à Fontenay-sous-Bois. Merci Françoise
merci
d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Et on vous embrasse et on vous fera découvrir un nouveau bruit de cuisine la semaine prochaine. On revient dans un instant avec Emmanuel Rubin, qui va parler gastronomie. Il va vous parler de quelqu'un que vous auriez aimé connaître, je pense, Alain Ducasse, et vous aussi, chers auditeurs. On revient dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah oui, c'est imbouffable.
Ah, qu'est-ce qui est imbouffable?
Un foie. un foie. Plein de sang d'une pas belle volaille, c'est de 1 à 10. C'est-à-dire, le résultat, c'est 1. Là, nous sommes à 10.
On en revient toujours au choix du produit. Là, on dégustait ce gâteau de foie blond de volaille, qui est une institution de la cuisine française et de la nouvelle cuisine.
Plutôt cuisine lyonnaise.
Cuisine lyonnaise.
Ça n'a pas beaucoup dépassé la région de Lyon.
Ah ben, vous allez voir, après la table des bons vivants, vous allez voir.
Mais il faut trouver.
Il faut trouver les gâteaux. Il faut trouver les foies.
Soyez courageux. Pour trouver des foies de cette qualité.
Ah ben, nous avons des pistes. Attendez, c'est du côté des Landes. Elle, on va la bloquer à la sortie. On va la faire parler.
La ferme de Tauzé, ils vendent en ligne.
C'est ça, il a donné son fournisseur. C'est sympa. Vous parliez de l'accord aussi avec le vin, Alain Ducasse. On est sur du rouge. On pourrait aller sur un beau blanc, là.
Un très beau Bourgogne blanc. On peut aller jusqu'à Meursault. On peut aller jusqu'à Puligny, Montrachet. Ça, c'est Montrachet.
Enfin, voilà.
Oui, ça mérite du grand.
Ça mérite du grand. Gâteau de foie blond de volaille. Combien de temps de cuisson pour ce gâteau, Marie-Victorine?
1 heure à très basse température. On fait ça avec du lait pour que ça reste un petit peu cassant. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait d'ébullition. On va faire un bain-marie avec une protection entre le sol et le
pas que ça fasse grille. Des
et voilà, il faut une cuisson très très lente, 90 degrés pendant une heure. Avec, pareil, il y a peu d'ingrédients, donc des beaux œufs de poule, un lait entier, enfin... Voilà.
Ça s'appelle la maîtrise, hein. Ça porte un nom. Hein.
Ben c'est ça.
C'est un parfait sourcing, une parfaite maîtrise, une parfaite cuisson, un parfait assaisonnement, une parfaite réduction, le vin à parfaite température. C'est simple. Hein.
Il met la pression quand il est en cuisine, Alain Ducasse.
Non, mais il met une jolie pression. Il nous pousse en fait. Disons que quand il sent qu'on peut stagner, il nous pousse. Et ça, c'est une vraie chance d'être à ses côtés pour ça.
Alain Ducasse, vous qui avez beaucoup voyagé pour ouvrir des restaurants partout dans le monde, qu'est-ce que la découverte des cuisines d'ailleurs vous a appris sur notre cuisine française?
Que nous sommes d'excellents techniciens et que la technique ou l'ADN de la cuisine française pouvait aider à mieux codifier les cuisines étrangères.
Ouais. S'il y avait, un poste de ministre de la gastronomie.
Non, mais alors, nous, on raconte pas des histoires politiques, on fait des choses.
C'est ça, mais ambassadeur de la gastronomie mondiale.
Certainement pas.
Non,
vous pouvez être sûr qu'il sera un jour ministre, puisqu'à chaque fois qu'il dit qu'ils ne le seront certainement pas, souvenez-vous, notre ministre de la Justice, jamais.
Non, mais inconsciemment, ça peut avoir un aspect politique, consommer mieux, aujourd'hui rafraîchir, plus local, pas faire n'importe quoi, est un biais politique de raconter les choses. On n'est pas obligé de, je pense, avoir l'étiquette, mais on le fait. Moi, je pense que le chef le fait quand même.
C'est en agissant, effectivement.
Ouais, évidemment.
Alors, vous venez régulièrement ici, Emmanuel, vous nous racontez de belles histoires, des petites histoires, de la grande histoire de table. Et aujourd'hui, vous invitez un grand nom à qui l'on doit peut-être ce joli mot de gastronomie.
Et oui, j'invite Arquestrate. Alors, pourquoi j'invite Arquestrate? Parce qu'il a au moins deux points communs avec Alain Ducasse. Le premier, c'est leur amour commun de la Méditerranée. On rappelle que Ducasse l'a renchanté avec cette cuisine dite de la Riviera. Et puis ensuite, c'est certainement cette volonté qu'ils partagent tous les deux d'inscrire la table comme un peu un miroir de l'époque et de la société. Alors, on va remonter le temps. Nous sommes au 4e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, où on découvre donc Arquestrate ou Arquestratos, dont on dit qu'il vient de Géla ou de Syracuse. Il est voyageur, il est poète, et entre ces deux vertus, il va se faire une postérité, vous l'avez dit, en inventant un mot, le mot gastronomie.
Bah, attendez, il faut choisir, il est voyageur, il est poète, il est gastronome ou
il
est cuisinier?
Tout cela, monsieur. Alors, d'abord, il voyage énormément, il va voyager en Haute-Grèce, à Hellespont, en mer Noire, sur la côte ionienne, et puis, lui, plutôt que de raconter les paysages, les hommes, voire l'histoire, comme on le faisait à l'époque, il va rapporter les mœurs culinaires, ce que l'on mange, comment on le mange, et c'est la première fois. Et comme c'est un poète, eh bien, il va témoigner tout ça à la manière des Grecs, c'est-à-dire à travers un long poème, on appelle ça un poème épique. Et là, c'est vrai que c'est peut-être le premier grand reportage gastronomique de l'histoire, ah en oui, pleine antiquité.
Carrément.
Ben, ils racontent les spécialités locales, toutes les influences qui font les meilleurs plats. Ils discutent de la qualité, de la quantité. Ils notent les recettes. Ils versent même, pardon, son grain de sel, car ils revendiquent un juste banquet. Vous avez vu le mot juste, comme Ducasse. Un juste banquet. Pour lui, c'est un repas qui ne convie pas plus de 4 personnes, sinon... C'est un repas de journaliers, de soldats, de soudards qui mangent leur butin.
Et en quoi on le dit, le premier des gastronomes?
Parce qu'il invente le mot. Le mot n'apparaissait pas avant. Alors son long poème épique, il possède 5 titres. Mais il y en a un que la postérité va retenir. Et c'est ce mot de gastronomia, dont on dit que c'est littéralement un peu normer les choses du goût. En vérité, à lire Archestrate, alors il reste de son poème que 328 vers. Mais quand on lit le poème, en fait, il ne norme pas les choses, il ne codifie pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est cette volonté d'inscrire dans les conventions sociales les relations humaines et la sociabilité, ce monde de la cuisine. Et c'est ce qui en fera un grand nom de la gastronomie. D'ailleurs, un grand chef qui s'appelle Alain Saint-Dérins, puis repris aujourd'hui par Alain Passard, encore un Alain, disons, la République
oui,
d'Alain.
Et Alain Chapelle, et Alain Ducasse, il y en a des Alain.
Et bien, donc Alain Passard, rue de Varennes à Paris, son restaurant, 3 étoiles également, qui s'appelle l'Archestrate.
Et voilà, et ben, Alain Ducasse, ça vous parle ça, parce que vous parlez souvent d'un
bien
mot
sûr.
Qui est un très joli mot, qu'on n'entend pas assez, c'est la commensalité. Hein,
le partage, la table est certainement le lieu le plus civilisé du monde. Pendant le temps d'un repas, les conflits s'apaisent, ils reprendront assurément juste après. C'est comme ça, et l'histoire s'est souvent écrite autour d'une table, et après le cours de l'histoire a continué, mais le temps du repas, le temps du partage, de la commensalité, ce sont des moments d'apaisement.
Eh bien tiens, quels sont vos grands moments à table, vos grandes découvertes? On va le savoir tout de suite avec le grill des bons vivants. On vous passe sur le grill avec ce questionnaire, Alain Ducasse. Quel est le goût de votre enfance, Alain?
Oh, ça... Certainement une cocotte de petits pois, un bout de lard, 2 oignons nouveaux, un peu de beurre de la ferme d'à côté. Voilà, c'est le goût de mon enfance avec un poulet rôti, avec le goût d'un poulet rôti, un poulet de la ferme qui avait fait du sport tous les matins, voilà, qui n'était pas enfermé dans.
Ah non, qui était, pas 40 jours standard.
Voilà, donc ouais. C'est ça mon goût originel.
Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Alain Ducasse?
De la moutarde et du champagne.
Ah, de la moutarde,
c'est
pas... On va venir.
C'est vrai que c'est un produit de luxe aujourd'hui.
Oh, la
moutarde. Ouais. Votre plus beau repas, Alain Ducasse?
Un de mes plus beaux repas dans les mois passés, c'est le dîner végétalien chez Daniel à 11 Madison Park à New York. Très courageux à New York de faire un restaurant végétalien avec beaucoup de succès, avec beaucoup de... très décrié. Je suis intimement convaincu que l'ouverture du côté du végétal allait jusqu'au végétalien. Chapeau, bravo. Un de mes plus beaux moments de gastronomie.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Alain Ducasse?
Curieux, savoureux.
Eh ben, ça vous va bien, c'est ce qu'on retrouve dans une vie de goût et de passion chez Lattès. Merci Alain d'être venu à cette table. On peut aller manger chez Sapide, effectivement. Vous avez réinventé le réfectoire parisien.
C'est un réfectoire.
C'est un réfectoire parisien. Merci Marie-Victorine Manoa.
Merci beaucoup.
Chef du restaurant au Lyonnais.
Oui.
C'était un plaisir de vous entendre, la chef qui rafraîchit la cuisine lyonnaise et la cuisine traditionnelle française. Bon week-end du côté de Brive, Alain Ducasse, bonne dédicace. Oui. Tiens, ce week-end aussi, on va le dire, c'est la fête des champignons au pays de Régis Marcon. Saint-Bonnet-le-Froid, si vous aimez cuisiner le champignon et le découvrir, eh bien c'est là-bas que ça se passe. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef, Anaïs Kerdraon et Julien Amat à la rédaction, Claire Dutronc à la programmation et puis au cake à la pyrolyse, Loïc Guimard à la réalisation. Et on se retrouve samedi prochain ici au Studio Coluche. Nous serons avec Gad Elmaleh et sa maman qui se lance dans le couscous. Dans un instant, c'est Lénaïque Monnier sur Europe 1. Bon week-end.